Chapitre 14. L'Amérique du Sud, Buenos Aires, une lettre d'Horace Verpré, excursion dans le Kentucky, les castors, visite au tombeau de Washington, seconde lettre, du retour en Europe, les adieux du sauvage, la chasse à l'ours dans les tribus, un épisode, une halte auprès du Niagara, Robert Kergorieux s'embarque pour l'Europe, le Neptune, la vie à bord, quelques passagers, pourquoi les riches colons quittent l'Amérique, une terre inhabitable, histoire de Núñez Bravero, le saphir, pérégrination, recherche, plainte au vent, les passagères, un grain, tempête sur les côtes du Var, naufrage du Neptune, Robert Kergorieux jeté sur un roc. Robert Kergorieux et le Canadien ne s'arrêtaient qu'à de rares intervalles, ou pour passer la nuit à couvert, ou pour se délasser. Tantôt ils frappaient à la porte d'un mineur, tantôt ils se présentaient à une hacienda. Dans l'Amérique du Sud, colonisée par la race espagnole, une hacienda est une grande propriété rurale, tenant à la fois de la terre seigneuriale et de la ferme agricole, habitée quelquefois par le propriétaire, le plus souvent par un régisseur et par sa famille. Dans tous les cas, c'est un asile où le voyageur égaré ou attardé est toujours certain d'être bien accueilli. Voyager ainsi, c'était encore se promener. À la fin, ils arrivèrent à Buenos Aires, chef-lieu de la République de la Plata. Buenos Aires, malheureusement déchirée par les crimes et les excès de la guerre civile, est cependant une ville où tout Européen se trouve protégé hautement par la présence de plusieurs consuls. Le voyageur s'y trouve en pleine sécurité. Un Français peut prendre cette ville comme le seuil de son pays. Au reste, la vie sociale y ressemble à l'existence de Paris, de Londres et de Madrid. Il ne s'agit plus par là de caravansérails, ni même de mauvaises auberges. L'hôtel, avec tout son confort, attend l'étranger qui passe, pourvu qu'il ait la bourse assez bien garnie pour payer rondement. Robert Kergorieux pensait enfin à cette nécessité fatale de la civilisation, l'argent. Comme il traversait une rue adjacente au port, il vit un quidam s'arrêter devant lui. « N'êtes-vous pas français ?» lui demanda l'inconnu. « Oui, » répondit le breton. « Et si vous désirez le savoir, je me nomme Robert Kergorieux, natif de Saint-Malo en Bretagne. »«
Robert Kergorieux de Saint-Malo, c'est bien cela. Eh bien, monsieur, tenez, voici une lettre à votre adresse. »«
Une lettre d'Horace ?» s'écria le jeune homme en jetant les yeux sur la suscription. « Que le ciel soit béni ! Mais monsieur, comment cette épître est-elle entre vos mains ? Et comment avez-vous deviné que j'étais celui à qui elle était destinée ?»«
C'est bien simple. Je suis chef d'une maison de portefeuille et de commissionnaire. En cette qualité, je sers de trait d'union à ceux des Français de l'Amérique du Nord qui ont à correspondre avec les Français qui habitent ou qui visitent la Plata. Vous voyez, je le répète, que c'est simple comme bonjour. »
L'enveloppe de la lettre enlevée, le filleul du corsaire y lut ce qui suit. Boston, hôtel du cerf couronné. Cher Robert, celui qui te remettra cette lettre ne peut te manquer si, comme je l'espère, tu passes par Buenos Aires, car il a pour industrie d'avoir affaire à tous nos compatriotes séjournant dans ce pays. Indépendamment de cette missive, il te remettra sur ta réclamation l'argent dont tu pourras avoir besoin. Mes prévisions m'ont bien servi. Notre ami Claude, qui est décidément le plus industrieux des hommes, a promptement mis le temps à profit pour faire une honnête fortune. Les spéculations qu'il a faites sur les côtes de l'Inde et continuées en Amérique lui ont conquis du bien-être pour nous trois, parce qu'il n'entend pas qu'on parle autrement et qu'il se fâche tout rouge à la moindre idée de lui laisser ses richesses pour lui tout seul.
son seul et profond chagrin est de ne pouvoir point partager avec le bon Jacques, qu'il aimait de la plus sincère et de la plus tendre affection. Tu peux penser si le pauvre garçon a éprouvé un vif chagrin en apprenant la mort de notre vieil ami, je pourrais dire de notre second père à tous. Il a pleuré longuement et ses larmes ne tarissaient pas. Cette circonstance lui a rendu plus pressant le besoin de te revoir. Il me répète sans cesse « Hé, quittons tout pour l'aller retrouver !» J'ai eu toutes les peines du monde à lui faire entendre qu'il serait bien plus expéditif que tu vinsses toi-même, aussitôt que tu seras renseigné sur notre résidence. Ainsi, au reçu de la présente, jette-toi sur un paquebot ou sur un cheval ou dans un aérostat, dévore l'espace aussi rapidement que tu pourras et tombe à Boston, à l'hôtel du cerf couronné. En attendant, car il y a déjà bien des semaines que j'ai rejoint notre Claude, nous avons fait, lui et moi, de lointaines et curieuses excursions à travers cette terre des États-Unis dont on nous parle si souvent en Europe et qui mérite tant d'être visitée. Tu penses bien qu'en nous trouvant ainsi au milieu de ces arbres centenaires, sur la marge de ces fleuves qui ont inspiré à Chateaubriand de si sublimes rêveries, nos instincts de chasseurs et d'explorateurs nous sont revenus presque subitement. Nous nous sommes élancés, un peu en imprudent, sur le domaine des Sioux, des Pieds-Noirs, des Chactas et des autres possesseurs primitifs de ce pays. J'ai étanché ma soif dans le Mississippi. J'ai fait brûler un chêne pour allumer ma pipe. Claude Marteau a attrapé un écureuil blanc et tout fier de sa conquête, il l'a apporté à l'hôtel du cerf couronné. Il parle de l'emmener avec nous en Europe. Ce qui m'a le plus intéressé après la visite des grottes du Kentucky, ça a été une colonie de castors que nous avons voulu surprendre dans ses savantes et laborieuses évolutions. Bien des livres de notre enfance nous parlent de ces intelligents architectes. Mais qu'est-ce qu'une relation froide auprès du mouvement même de ces admirables artisans? Figure-toi un fleuve ou un étang barré par une digue. La main de l'homme n'a rien fait à cette œuvre-là. Ce n'en est que plus parfait. De nos charmants amphibies, les uns coupent par le pied un arbre de la rive qui ne tarde pas à tomber. Une fois que sa chute est effectuée, ils le scient et le découpent mieux que ne pourrait le faire le tourneur ou le menuisier le plus habile. D'autres castors, se servant de leur queue en guise de truelle, amassent de la terre glaise, la battent et la pétrissent comme un mortier, et finalement en font comme un mastic impénétrable à l'air et à l'eau. Qui osera me soutenir maintenant que l'instinct du castor n'est pas voisin de l'intelligence de l'homme? En voilà assez sur nos pérégrinations. Viens donc vite afin que nous les continuions ensemble. Mille chances heureuses, cher Robert, Horace Verpré. P.S. Combien de jours cette lettre t'attendra-t-elle à Buenos Aires? C'est ce qu'il ne m'est pas possible de prévoir. Tout ce que je puis te dire, c'est qu'en dépit de tous mes discours, Claude Marteau manifeste une impatience que j'ai beaucoup de peine à réfréner. Tous les jours, en se levant, il me dit « Allons, Horace, c'est trop attendre, partons, allons au-devant de Robert !» Je ne désire pas moins te revoir que lui, mais il faut d'abord que tu sois arrivé dans la Plata. Ensuite, que tu aies reçu cette lettre. Enfin, que tu aies le temps de venir jusqu'à Boston. Mais encore une fois, j'ai beau l'exciter à la patience, qui est une grande vertu, c'est absolument comme si je chantais. Il a l'air d'être convaincu et, le lendemain, il recommence à me dire « Allons, Horace, c'est trop attendre, partons, allons au-devant de Robert. Je ne peux plus le retenir. » Horace Verpré. Le dernier paragraphe de cette missive ne permettait pas à Robert Kergorieux de rester plus longtemps dans le chef-lieu de la République argentine. Il demanda quelque argent au commissaire, prit quelques dispositions et partit en compagnie de Whitehaw. Le moyen de transport qu'il avait choisi l'avait jeté dans un des ports voisins de la Virginie. Son cœur battait avec violence. « Je vais retrouver mes amis, » disait-il. « Hâtons-nous, puisqu'ils ne peuvent plus attendre !» Cependant, en longeant cet état, il ne pouvait se défendre de jeter un coup d'œil sur les lieux qu'a habité George Washington, le glorieux fondateur de l'Union américaine. Il voulut voir le Mount Vernon, modeste retraite du grand homme pendant sa vie et lieu de sa sépulture après sa mort. L'histoire nous apprend que la mort de George Washington n'est pas moins belle et touchante que celle d'Épaminondas, le général des Thébains. Quand l'homme d'État était parvenu aux derniers confins de la vieillesse, les Anglais, renouvelant leurs attaques de 1782, tombaient en armes sur la côte américaine, brûlant des villes et saccageant les domaines des particuliers. Le Congrès organisa vite une armée pour repousser cette agression. Qui mettre à la tête des troupes? George Washington, qui avait été deux fois président, qui s'était battu, qui avait parlé, qui avait gouverné, s'était bien acquis le droit de mourir en paix. Mais point, on l'appela, et il répondit à l'appel de la patrie, quoiqu'il sût bien qu'il n'avait plus que quelques mois à vivre. À 150 jours de là, en effet, succombant à l'âge et à la fatigue, il mourait plein de gloire et de calme, en demandant qu'on le traitât comme un simple particulier. Ô vertu républicaine, grandeur, simplicité, sobriété, mépris des richesses, vertu dont on parle tant et qu'on pratique si peu, George Washington vous cultivait. Tout un peuple le pleura, toute une nation porta son deuil. On voulut lui élever un tombeau honorifique. Sa famille insista pour qu'il n'eût que le petit et le simple monument qu'il a encore à Mount Vernon. Mais quoi ? En visitant ainsi le territoire de l'Union, en s'arrêtant aux lieux consacrés par l'histoire, Robert Kergorieux perdait un peu de vue le dernier paragraphe de la lettre d'Horace. « Tel est le charme des voyages, il domine tout. » Ne faisons plus l'école buissonnière, ne prenons plus le chemin des écoliers, allons vite à l'hôtel du cerf couronné. Il y envoya un express et l'express lui apporta à la hâte un nouveau message d'Horace Verpré. Lisons cette nouvelle lettre avec notre héros. Quelle bizarrerie de la destinée, mon cher Robert! Nous allions au-devant de toi au moment où tu courais sur les terres de l'Union américaine. Ainsi, nous avons toujours l'air de jouer à cache-cache. Mais pour le coup, il nous faut nous donner un rendez-vous précis où chacun de nous se trouve à la même heure. Courir après toi en ce moment, ce serait prendre un moyen infaillible de ne pas te rencontrer. Convenons plutôt que nous partons tous en même temps pour l'Europe. J'espère que cet expédient te conviendra. Claude Marteau, qui est de plus en plus impatient de te revoir, parlait de revenir sur nos pas afin de te rencontrer à Boston, à Philadelphie ou à New York. Je lui ai démontré que, comme tu n'as pas de résidence fixe ni bien connue, ce serait dépenser du temps en pure perte. Cet excellent garçon ne voulait pas se soumettre à la sévérité de mes raisonnements. Il a enfin cédé en me disant « Eh bien, soit Horace, partons pour l'Europe. » Dans le port de Rio, un vapeur chauffe en ce moment. Il part pour l'Espagne. Nous allons nous occuper d'y avoir notre passage. De Cadix ou de Barcelone, il nous sera ensuite facile de gagner notre France. Si aucun incident ne vient contrarier ce projet, nous t'attendrons à Marseille. Une fois que tu seras arrivé sur le port de la Joliette, 2 ou 3 jours suffiront pour nous ramener tous les trois dans notre Bretagne. Et dès ce moment, toutes les fatigues, tous les ennuis, tous les labeurs, toutes les tristesses de nos longs voyages seront oubliées. Nous n'aurons plus que des jours de repos et de fête. Tiens donc pour convenu ce que je te dis là, cher Robert. Aussitôt que tu auras reçu cette missive, ne balance pas, monte sur le premier navire venu que tu rencontreras et fais tourner la proue du côté de la France. Bonne santé, bonne chance et prends revoir. Celui qui se dit le meilleur de tes amis, Horace Verpré. Ces dernières nouvelles traçaient à Robert Kergorieux la règle de conduite qu'il avait à suivre. « Il n'y a pas à attendre, » se disait-il. « Partons et partons vite !» Mais, tout en prononçant ces paroles, il arrêta ses regards sur Waitahou, debout à côté de lui. Le fidèle Canadien paraissait, de son côté, assez sérieusement préoccupé. « Waitahou, » disait le filleul du corsaire, « voici une nouvelle lettre d'Horace qui ne me permet pas de demeurer plus longtemps en Amérique. »«
Eh bien, seigneur, faites ce qui vous est demandé par votre ami. Partez. »
« Mais, » reprit le jeune Breton, avec une émotion mêlée d'embarras, « est-ce que tu ne veux pas venir avec moi ?» Le Canadien fit un signe de dénégation.
Non, Seigneur.
Tu seras traité chez nous mieux que dans ta tribu.
Seigneur, vous aimez la terre qui vous a vu naître. J'aime aussi celle où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai reçu les caresses de ma mère. Tant que vous avez été seul et en danger dans une contrée inconnue, je n'ai pas voulu me séparer de vous. Vous voici dans un pays habité par des hommes de votre race et de votre couleur. Vous trouverez au premier port un navire pour vous transporter chez vous. Souffrez que je fasse ce que vous ferez vous-même. Le Canada, mon pays, n'est d'ailleurs qu'à deux pas. J'y veux revoir les frères de ma tribu et mourir au milieu d'eux, pleurer par les anciens et par les jeunes gens, au pied d'un érable.
Tout cela est très concevable, Waitahu, mais comment vivras-tu désormais au milieu de tes frères ?
De ce que j'ai passé quelques années avec Sir Primrose et quelques autres civilisés, il ne s'ensuit pas que je n'aime plus la vie sauvage. Au Canada, dans les solitudes où je me rendrai dès que vous serez parti, je me remettrai à faire une guerre acharnée aux ours.
Comment ? Les ours sont donc pour vous un moyen d'existence ?
Sans doute.
Mais est-ce une existence qui puisse te suffire ?
Il faut que je vous donne quelques explications là-dessus pour vous faire mieux comprendre.
Le Canadien entra alors dans un détail très savant sur les avantages que l'ours rapporte aux hommes des tribus.
Est-ce que vous n'avez pas entendu parler déjà des jambons d'ours ?
Reprit-il.
Dans tous les animaux de cette espèce, les jambes et les cuisses sont fortes et musculeuses. C'est le premier produit. J'ajoute qu'il n'est pas de quadrupède qui rende, après sa mort, plus de service à l'homme que l'ours. Nos frères font avec sa peau des lits, des couvertures, des habits et des gants, ainsi que des colliers pour les chiens qui tirent les traîneaux. Ceux qui vont sur la glace pour faire la chasse aux animaux marins font les semelles de leurs souliers de ce même cuir qui jamais ne glisse. La graisse de l'ours est très estimée à raison de sa saveur agréable et fort nourrissante. Quand elle est fondue, on s'en sert au lieu d'huile.
Mais comment parvenez-vous à vous défaire de tous les ours que vous tuez ?
En les apportant à la ville, où des négociants américains et anglais nous les achètent en échange d'autres marchandises, ou pour ce métal du Mexique que vous nommez l'or.
Mais faut-il en tuer un grand nombre ?
Vers la fin de décembre, lorsque les ours sont devenus si gros et si indolents qu'ils peuvent à peine marcher, et qu'ils sont en état de fournir une grande quantité d'huile, nos guerriers leur font la chasse. Le chef de la tribu donne un repas à tous ceux qui doivent faire partie de l'expédition. Celui qui fait les honneurs du repas ne touche à rien, et toute son occupation, pendant que les autres mangent, est de raconter ses anciennes prouesses à la chasse. On se met ensuite en marche, équipé comme pour la guerre et aux acclamations des wigwams. Un homme n'est pas réputé bon chasseur s'il ne tue 12 ours en un jour. Les grands cœurs domptent ces bêtes. On en a vu revenir chez eux, conduisant avec une baguette un grand nombre de ces ours qu'ils poussaient devant eux comme un troupeau. Beaucoup de nos frères apprivoisent de petits ours.
Tout en prêtant une oreille attentive à tout ce que lui contait l'enfant du Canada, Robert Kergorieux faisait cette remarque qu'il avait déjà eu l'occasion de renfermer dans sa mémoire que les hommes de race primitive sont ou plus enclins à la loquacité ou même plus portés à l'éloquence que les rejetons des vieilles familles humaines. Chez eux, les ressorts de l'esprit sont encore tout neufs. La pensée n'est pas obscurcie ni ralentie par les petites pratiques de la vie sociale. C'est ce qui explique pourquoi ils causent sans cesse une fois qu'ils sont familiers avec l'Européen. L'heure de la séparation était venue.
Il faut pourtant que nous nous décidions à nous quitter, mon cher et courageux compagnon, dit le jeune Breton à Waitahu. Tout ce que tu viens de m'apprendre des mœurs de ta tribu m'a profondément frappé. Voilà une vie animée, colorée, utile, pleine de simplicité et de grandeur tout à la fois. Faire la guerre aux ours ravisseurs, tuer les morses qui attaquent le voyageur maritime, lutter sans cesse contre les éléments en furie et toutes les forces de la nature, c'est la vraie destinée de l'homme. Il ne peut exister avec sa propre estime qu'à ce prix-là. Je comprends, ô Canadien, que tu trouves un grand charme à cette existence dont les incidents se renouvellent sans cesse et qui n'est jamais la même. Hélas, tu as bien raison de ne pas vouloir me suivre en Europe. Que deviendrais-tu dans nos pâles et monotones cités? Tu serais trop à l'étroit dans ces petits compartiments de maisons lourdes et immobiles. Tu y étoufferais faute d'agir, comme l'homme a été jeté sur cette terre pour agir et non pour croupir dans un lâche repos. Tu serais amené à faire la guerre, non aux monstres aux dents d'ivoire, comme les braves de ta tribu, mais aux hommes, mais à tes semblables, à tes frères, ainsi que les nomment nos livres sacrés. Eh bien, ta vie des savanes, des monts, des vallées et des bords de la mer vaut mieux. Il est beau pour un homme de s'endormir du dernier sommeil sans avoir trempé ses mains dans le sang d'un seul de ses pareils. Va donc rejoindre tes frères, je ne te retiens plus.
Vous aussi, vous avez de belles choses, répondit le sauvage qui avait un peu appris la politesse. Vous cultivez la prévoyance, vous honorez et vous soignez les vieillards, vous adorez le grand Dieu dans des temples remplis de magnificence, vous vous découvrez au nom de la justice, vous faites une loi du travail, vous récompensez le mérite, le talent, les efforts, vous punissez le vol même quand il a pour objet un œuf à enlever, et vous avez bien raison. Vous exigez qu'on vive en famille, vous videz vos querelles rapidement, par des batailles d'un jour, quelquefois d'une heure. Vous ne tuez pas froidement avec la massue, le tomahawk, avec le casse-tête, comme nous autres barbares. Vous lancez la mort un peu à la manière du ciel, avec de petits tonnerres de bronze. Je vous admire profondément.
Il était convenu que leur course commune finirait à la cataracte du Niagara. Le Niagara. Rien n'est plus majestueux que ce grand fleuve. Tout voyageur sait qu'il reçoit les eaux du lac Erie et qu'il va les verser dans le lac Ontario. Limpide comme une vaste nappe d'argent, il parcourt d'abord un large bassin où il se déploie avec majesté. Les hauteurs de sa rive gauche, les plaines de sa rive droite et les différentes îles qu'il embrasse sont ornées d'une riche végétation. Bientôt le sol est plus aride, les rochers sont mis à nu, et leur plateau, se prolongeant sous le lit du fleuve, soutient l'immense volume de ses eaux. Mais cette base vient tout à coup à lui manquer. Elle se termine par un escarpement de 150 pieds de hauteur sur un mille d'étendue, et le Niagara s'élance, se précipite avec impétuosité dans la vallée ouverte devant lui. Elle est hérissée d'écueils. L'eau s'y brise et rejaillit vers le ciel sous la forme d'un tourbillon de vapeur. Une voûte est ouverte entre le pied des rochers et la chute du fleuve. Quel grand et magique tableau! Combien l'homme se voit petit au milieu de ces accidents de la nature! Un mugissement éternel sort de ces flots bouleversés. Les échos le redoublent et le prolongent. Il se confond avec les roulements du tonnerre et, quand le ciel est pur, le soleil reflète souvent les couleurs de l'arc-en-ciel dans le nuage isolé qui s'élève et reste suspendu sur l'abîme. Ce spectacle d'un fleuve qui tombe et de la profonde vallée où il bouillonne pour reprendre ensuite un paisible cours offre la nature dans tout l'éclat de sa grandeur et de sa beauté. Un peu plus loin que la merveilleuse cataracte, à 3000 environ, il voyait un pont d'une longueur merveilleuse jeté sur le grand fleuve.
« Tout à l'heure, dit alors le sauvage en s'adressant à son jeune ami, vous me parliez des séductions de la vie errante. Mais ce pont, mais mille et une choses de ce genre sont des prodiges que nous ne savons pas faire et qui ne peuvent sortir que des mains créatrices de vous autres, hommes blancs. Sur ces bords nus et désolés, il y a plusieurs centaines d'années, les enfants de l'Europe sont venus établir leurs villes, leurs ateliers, leurs usines, et tout l'attirail de leur génie. Le travail a enrichi ces contrées de trésors plus précieux que ne le sont ceux qu'on trouve dans les entrailles du Mexique et du Pérou. Nos petites hordes, qui ne savent que chasser et pêcher, ont été repoussées dans les forêts et sur les montagnes rocheuses par tant d'industries. C'est fort heureux pour le monde. Vos frères blancs jettent les bateaux en fer blanc sur les lacs. Ils font des moulins qui exécutent en une heure autant de besogne que les bras de 20 000 hommes en un jour. Ils tirent du cotonnier des habits, des étoffes, mille richesses. Ils ensemencent des terres qui ne rapportaient jadis
que de hautes herbes et des arbres stériles. Ils transforment enfin la jeune Amérique qui, dans quelques centaines d'années, sera la plus féconde et la première des parties du monde. Au fond, Robert Kergorieux se rendait à la puissance de ce raisonnement et il admirait le bon sens et la noble impartialité du Canadien. « Un jour viendra, reprit Waitahou, où les derniers fils de nos races vaincues quitteront leur hutte pour habiter ces villes que le génie américain improvise en si peu de temps. Ils se mêleront à la famille européenne, assez généreuse pour savoir se rajeunir. C'est alors que l'Amérique sera parvenue au plus haut point de ses brillantes destinées. « Waitahou, répliqua le jeune Breton, voilà une parole plus belle et plus pratique que toutes les grandes harangues que les orateurs des districts prononcent au Congrès. On dirait que c'est l'esprit du sage Washington qui parle par ta bouche. » Il lui tendit la main, puis il ajouta. « Un dernier adieu, une dernière étreinte. » Tous deux s'embrassèrent. « Nous nous quittons, mon vieil ami, et sans doute pour ne plus nous revoir. Je ne veux pas me séparer de toi sans t'avoir laissé un souvenir. Ainsi que tu me le disais il y a quelques instants, je suis ici parmi les miens. Je n'ai plus rien à redouter. Je n'ai plus de péril à craindre. Ainsi ma carabine n'est plus une arme pour moi. Pour toi qui me l'as si bien conservée, elle a, je le sais, un grand prix. Tiens, prends-la et ne te sépare jamais d'elle. » Waitahou pleurait d'attendrissement.
« Vous pouvez être bien sûr qu'elle ne me quittera jamais, » répondit-il. À la chasse, à la pêche, à la guerre ou au milieu des huttes de la tribu, ce fusil sera un souvenir constant qui me rappellera l'ami qui me l'a donné. Si j'ai un jour un fils, il le recevra en héritage avec ces mots « Enfant, sois brave et vis en honnête homme comme le jeune Français. »
Ils se serrèrent encore une fois la main, l'un pour prendre le sentier qui menait au port de la ville voisine, l'autre pour s'enfoncer dans les bois qui conduisaient à sa tribu. « Eh bien, se dit Robert Kergorieux, puisque mes deux amis ont pris la route de l'Atlantique, faisons comme eux, et de là nous irons à Marseille. » Il prit passage sur le Neptune. C'était un trois-mâts d'une extrême légèreté, rasant l'eau comme un goéland quand il plonge dans la mer les plumes duveteuses de ses ailes. Au nombre des passagers se trouvaient des familles françaises mêlées à quelques groupes d'Espagnols et d'Italiens. « Enfin, se dit le jeune voyageur, il va m'être possible de causer un peu de mon pays. » Le capitaine était un ancien élève de l'école de Brest. « Me voilà en pays de connaissance, » reprit le filleul du corsaire, toujours en se causant à lui-même. Si le mouvement de la vie moderne est curieux à observer, c'est surtout à bord d'un navire. L'intérêt qu'on éprouve à contempler cet essai d'un monde abandonné aux caprices du vent redouble quand il se trouve sur le même pont des hommes, des femmes et des enfants, venant de contrées diverses et se rendant à des destinations qui ne sont pas les mêmes. Il se forme alors des liaisons d'amitié, d'autant plus douces qu'elles sont plus intéressées. On se rencontre pour quelques jours, pour un mois ou pour un mois et demi, si vous voulez, et l'on tient à ce que ceux qui vous voient ainsi en passant conservent toujours de vous un bon souvenir. Ce qu'il y a de meilleur dans l'esprit et de plus délicat dans le cœur est alors étalé comme à profusion. Les passagers du Neptune étaient pour la plupart des colons enrichis de la Havane, de la Plata et des autres portions de l'Amérique. Ils opéraient leur retour en Europe afin de venir jouir en paix de leur fortune amassée. Robert Kergorieux s'étonnait de les voir changer de patrie rien que pour ce motif. « Pourquoi donc, leur disait-il, ne préférez-vous pas la belle et jeune Amérique à notre vieille Europe? Si vous aviez comme moi un devoir à remplir, des souvenirs à entretenir, un état à vous faire, je comprendrais que vous vinssiez vieillir à Paris, à Londres ou à Naples. Mais il n'y a pour vous tous rien de pareil. Vous quittez le plus beau ciel qui soit au monde, les grands fleuves, les grandes mers, les grandes forêts, les doux fruits, les fleurs éblouissantes, l'abondance, une terre d'une fécondité sans pareille, et tout cela sans autre raison que celle-là, c'est la mode. « Mon jeune monsieur, » répondait-on aux voyageurs, On voit bien que vous ne jugez les choses que sur l'apparence. L'Amérique est sans contredit le plus beau pays du monde. Seulement, l'Amérique n'est pas habitable. Que dites-vous là ?
La vérité.
Eh bien, expliquez-vous plus clairement.
Rien de plus facile.
Les passagers ajoutaient.
Oui, l'Amérique est belle, mais Dieu a mis un prix à sa beauté.
C'est la terre des tremblements de terre et des beaux paysages. C'est la patrie de l'or et de la fièvre jaune. C'est le sol où tout est réuni pour que l'homme ne manque de rien. Et c'est celui où l'homme est le plus en guerre avec son semblable. On ne trouve pas sur ce vaste continent 20 kilomètres carrés où la guerre civile ne promène point à chaque instant le fer, le feu et le gibet. Il y a de grandes mers et de grands fleuves, mais il n'y a nulle part autant de naufrages. Enfin, et pour aborder un raisonnement frivole, sauf le boire et le manger, une nature délicate n'y trouve rien à sa convenance. Il faut constamment avoir recours à cette vieille Europe dont vous parlez. Comprenez-vous maintenant pourquoi nous préférons l'ancien monde au nouveau ?
Je comprends, dit Robert Kergorieux, qui n'hésitait pas à humilier la fougue de son amour-propre devant la vérité. Cependant, on entrait à pleine voile dans les mers de l'Europe. Un moment, le Neptune s'était arrêté près des côtes d'Espagne. Plusieurs passagers y descendirent, puis il continua sa route lorsque, après être entré dans la Méditerranée, presque en vue des côtes de Marseille, la vigie s'écria tout à coup.
« Voilà un grain noir à l'horizon !»
Le capitaine commanda vite la manœuvre. Que sont les efforts des marins les plus rudes en présence de la tempête qui est, dit-on, un des signes de la colère de Dieu. En dépit des voiles pliées, des mâts abaissés ou coupés, des rames tirées, un coup de vent s'empara du navire et le jeta comme une plume du côté du Var.
« Au secours, à la chaloupe, au canot, à la mer, à la nage !»
Tous ces cris partaient ensemble et s'entrechoquaient. Robert Kergorieux n'avait pas attendu qu'on fît appel à son courage. Quand il avait vu que le Neptune, aux trois quarts fracassé par les écueils, était déjà disjoint et prêt à sombrer, il s'était jeté à la nage, en pleine mer, se portant du côté par où il lui était possible d'arracher à la mort quelques-uns de ses compagnons de voyage. Deux ou trois fois, il avait été assez heureux pour empêcher quelques-uns des naufragés de se noyer. Mais quoi qu'on eût fait entendre le canon d'alarme et fait flotter un pavillon de détresse, les secours n'arrivaient qu'avec infiniment de lenteur. Quelques frêles embarcations s'approchaient pourtant. « Arriveront-elles à temps ?» s'écriait Robert épuisé. « Encore 5 minutes et nous périssons tous !» Il redoublait d'énergie. Il luttait toujours. L'orage aussi sévissait avec plus de vigueur.
« Les voilà, les voilà !» lui criait un matelot. « Tenez bon, jeune homme !»
Robert Kergorieux allait répondre. Un nouveau coup de vent poussa la lame et alla fracasser le jeune homme sur les rochers.